Et aujourd'hui, on vous emmène à Saint-Gervais-les-Bains, en Auvergne-Rhône-Alpes.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vendredi, vous étiez à Saint-Pierre-et-Miquelon avec Aurélie Sfez. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. Dès qu'on arrive dans cette petite commune, on est tout de suite séduit par ses paysages. Des sommets enneigés à perte de vue, des sapins, des lacs aux reflets turquoise. Un décor de rêve pour les 6000 résidents à l'année. Mais pendant les vacances, le chiffre peut être multiplié par 4 avec l'afflux des touristes. Ce qui a d'abord fait le succès de Saint-Gervais, ce sont ses eaux thermales. Après un parcours de 6000 ans sous la terre, elle rejaillit à 39 degrés, enrichie en minéraux et oligo-éléments. L'autre attraction de Saint-Gervais, c'est bien sûr le Mont Blanc. Grâce à lui, Saint-Gervais est parfois considéré comme la commune la plus haute d'Europe. 30 000 alpinistes tentent chaque année d'atteindre son sommet à 4808 mètres d'altitude. Parmi les personnalités qui ont marqué l'histoire du massif alpin, il y a Marie Paradis. Née à Saint-Gervais, elle est la première femme à avoir gravi le Mont Blanc en 1808. Le marché où nous sommes ce matin se trouve sur l'esplanade qui porte le nom de cette femme qui s'est révélée puissante et courageuse face à la montagne. Flavie Mélendez, bonjour.
Bonjour.
Vous vivez ici depuis toujours. Est-ce que Marie Paradis est un modèle pour vous ?
Oui, je vis ici depuis que je suis petite, au pays du Mont-Blanc. Effectivement, ce sont des grandes femmes qui ont marqué l'histoire, en tout cas, de notre territoire et pour qui il faut garder cette humilité qu'elles ont eue et cette force et cette ténacité qui était parfois pas facile à avoir parce qu'elles ont dû faire face à des éléments qui étaient assez importants. Et je suis très, très, très fière quand je pense à toutes ces femmes en Haute-Savoie qui ont marqué notre histoire et notre territoire, de me dire qu'on est plusieurs à peut-être continuer cette histoire-là aussi.
Est-ce que vous-même, vous avez gravi le Mont-Blanc ?
Alors non, parce que le week-end où je devais le gravir, malheureusement, on n'a pu monter que jusqu'à Tête-Rousse. On n'a pas pu monter jusqu'au goûter parce que le temps s'est gâté. Et on n'a pas pu faire cette ascension-là, mais j'ai pu déjà effectivement faire les Dômes de Miage, le Mont-Blanc du Tacul, etc., qui sont également de très belles courses. Et puis, un sommet très sympa qui s'appelle le Buet et qui est le Mont-Blanc des Dames.
Pourquoi le Mont-Blanc des Dames ?
Il a toujours été nommé ainsi. C'est le petit Mont-Blanc peut-être pour les femmes. Mais aujourd'hui, on peut se dire que le vrai Mont-Blanc, il peut être aussi gravi par des femmes. Et c'est un beau modèle. Et
c'est tant mieux. En tout cas, même si vous ne l'avez pas encore fait, vous ne manquez pas de courage pour autant, car vous multipliez les fonctions. Vous êtes à la fois infirmière, agricultrice fromagère et mère d'une petite fille de 8 ans, Léonie. Vous nous raconterez tout à l'heure comment vous faites pour gérer toutes ces vies en seulement 24 heures. Et à l'heure de l'apéro, vous nous ferez découvrir vos fromages. On verra aussi comment un collectif de femmes se mobilise pour lutter contre la pollution de l'air ici, dans la vallée de l'Arve. On fera la rencontre de l'une des rares femmes guides de haute montagne. Une institutrice viendra également nous raconter comment elle éduque les enfants aux médias et surtout aux fausses informations. Et en fin d'émission, on découvrira une artiste recommandée par notre ami André Manoukian. Aujourd'hui, ce rendez-vous place du marché à Saint-Gervais-les-Bains est 100% féminin et on s'en réjouit. Mais avant de vous donner la parole, on écoute Feu Chatterton avec Écran Total, un choix de notre programmateur musical, Joe Bacar.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant, très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, pour toi.
grand président, sanglots de reptile s'adressent sans dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile, avec tous ses descendants, normal. Mais il pleut sur la ville, et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies, c'est génial. On le lynche sur la place publique, on piétine le pacte civique.
Vous écoutez France Inter, rendez-vous Place du Marché est à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. On a traversé le marché pour se poser juste en face, à la terrasse de la brasserie du Mont-Blanc. Juste à notre droite, on a une magnifique église baroque. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'on entende les cloches sonner. On est toujours en compagnie de Flavie Mélandaise qui multiplie les casquettes. Vous êtes infirmière, agricultrice, maman, tout ça en même temps. Et là, il y a beaucoup de fromagers, des collègues à vous.
Ici, vous retrouvez des fromages qu'on appelle labellisés par les AOP, appellation d'origine protégée, principalement le reblochon, la
Provence. Qu'on adore.
Voilà. Vous retrouvez aussi de la tome de Savoie, de la raclette.
En tout cas, ça sent bon, hein. On sent tous ces fromages d'ici, là.
C'est des bonnes odeurs.
Vous voulez boire quelque chose? Vous êtes servi ou pas?
Je vais aller demander un petit café à Philippe.
Ben, n'hésitez pas, c'est pour nous, on vous invite. Deux autres femmes nous ont rejoints, Mallory Guyon et Mireille Méloche. Bonjour.
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 Vous faites partie toutes les deux d'un collectif qui s'appelle Colère Pure, qui dénonce et lutte contre la pollution ici dans la vallée de l'Arve. Ça concerne combien de communes et quelles communes ?
Alors la pollution de l'air, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose de général. Après, on parle beaucoup du pays du Mont-Blanc et de la vallée de l'Arve parce que toute la population, effectivement, s'est mobilisée en 2016 quand il y a eu les pics de pollution l'hiver. Mais il faut savoir que c'est quand même un sujet général et qu'effectivement, en fonction, comme par exemple pour le pays du Mont-Blanc, de la géographie ou l'aérologie, la pollution peut être plus prononcée, mais elle existe de partout, donc ça concerne toutes les communes, tout compte fait.
Mallory Guyon, vous êtes médecin généraliste aux Houches et mère de famille. Vous vivez dans la vallée depuis 13 ans. Quel est le problème concrètement ici ?
Alors le problème concrètement, c'est que nous avons une pollution atmosphérique qui a un impact sanitaire sur la population parce que on est dans un secteur géographique qui est très encaissé, puisqu'on a toutes les hautes montagnes à plus de 4000 mètres. On a une aérologie au pays du Mont-Blanc, comme je vous expliquais, qui est vraiment, si vous voulez, proche du zéro absolu. Donc il n'y a pas d'évacuation des polluants atmosphériques. On a beaucoup, effectivement, de sources polluantes concentrées sur un même endroit où l'air ne passe pas. Et donc on a, si vous voulez, un problème avec toutes ces sources de pollution qui sont le trafic routier, les industries, l'incinération et puis en fait l'hiver, le problème du chauffage au bois. Donc tout ça cumulé fait que ici l'air est vraiment toxique.
Mireille Méloche, vous êtes arrivée dans la vallée un an après Mallory Guyon. Vous êtes originaire du Canada. Pour ceux qui se demanderont d'où vient ce petit accent bien sympathique, pourquoi vous avez rejoint le collectif Colère Pure ?
Au fait, le collectif, au départ, ils avaient mis en place une plainte en gendarmerie pour non-assistance à personne en danger, si je ne me trompe pas, c'était ça. Et ils ont donc appelé tous les habitants qui avaient eux-mêmes ou des membres de leur famille qui souffraient de la pollution. Et moi, je suis donc allée en gendarmerie, en larmes, déposée, parce que pour une fois, on avait une oreille, au fait, qui nous écoutait, grâce aux colères pures. Donc, je suis allée déposer plainte au nom de ma fille en gendarmerie.
Elle a quel âge, votre fille ?
Alors, ma fille, maintenant, a 6 ans, mais donc elle avait un petit peu moins d'un an quand ça s'est arrivé. Et c'était la souffrance continue. Et en sortant de la gendarmerie, j'ai rencontré donc Mallory et le docteur Guyon et les membres du Colère Pure. Et depuis, je m'investis avec eux pour essayer de faire ce qu'on peut pour que cette situation s'améliore.
Elle s'appelle comment, votre fille ?
Elle s'appelle Mila Rose.
Et Mila Rose, elle avait quel problème à ce moment-là ?
Alors, Mila, jusqu'à ses 3 ans, en fait, elle a eu des infections au système ORL chronique. Donc, le jour de ses 3 ans, elle avait déjà fait 36 rondes d'antibiotiques parce que, au fait, à chaque fois qu'il y avait de la pollution, à chaque fois qu'il y avait tout, elle était tout le temps prise au niveau des bronches, au niveau respiratoire. Et il n'y avait rien à faire. Elle allait mieux, 3 jours après, ça repartait. Elle allait mieux, 3 jours après, ça repartait. C'était une spirale infernale. On a tout fait. Elle s'est fait opérer. On est allé voir des spécialistes. On a tout essayé.
Mallory Guyon, on le rappelle, vous êtes médecin et mère de famille. Ce que nous relate Mireille, c'est des cas que vous avez beaucoup rencontrés.
Oui. Et au départ, en fait, je n'avais pas à tilter. Jusqu'à ce que mon propre fils, en fait, en soit victime de cette pollution de l'air. Mon fils, il a été hospitalisé à 6 semaines pour une bronchiolite. Donc forcément, en tant que mère, déjà, on est au bout de sa vie. Mais en tant que médecin, on s'interroge beaucoup. Et en fait, j'ai eu ma réponse quand il y a eu ce mouvement de manifestation en hiver 2016, où effectivement, il y a eu le docteur Champy qui a très clairement dit que la pollution de l'air était délétère pour la santé. Et là, j'ai enfin fait lien et j'ai repensé après à tout les enfants que je voyais en consultation, soit ce sont des infections ORL qui récidivent, c'est-à-dire que voilà, ça va durer 5 jours et puis après ça revient 5 jours plus tard, soit en dehors des infections, je vois effectivement des asthmes qui s'installent chez les enfants. Et c'est une grande inquiétude parce que ce sont quand même des petits bouts, souvent ça commence à 3 ans, normalement ça devrait plutôt s'atténuer. Quand on a des bronchiolites, ça s'atténue à 3 ans. Et en fait, moi, j'en ai beaucoup qui continuent à avoir des asthmes.
Vous l'avez évoqué, avant vous, il y a eu un lanceur d'alerte qui a pointé du doigt la pollution ici, au pied du Mont-Blanc. C'était en 2017, c'est le docteur Frédéric Champly, chef des urgences à Sallanches. À l'époque, il n'avait pas été tellement écouté.
Alors à l'époque, de dire qu'effectivement, respirais-tu, c'était compliqué parce que à l'époque, personne ne croyait à la pollution de l'air. C'était pas possible parce qu'on était à la montagne. Voilà.
C'est un peu le paradoxe, Mireille Méloche, c'est que souvent on vient à la montagne pour se dire on va se ressourcer, on va prendre un bol d'air pur, et en fait c'est le contraire qui se passe pour vous.
Ah, mais c'est la douche froide quand on s'en rend compte justement, parce qu'on n'a pas l'impression en habitant ici, surtout moi qui viens de la ville, j'ai grandi à Montréal, t'arrives ici, tu dis c'est bien, je suis à la montagne, je suis à l'air pur, quel environnement magnifique pour mes enfants. Et puis après, tu te rends compte que c'est l'environnement magnifique pour tes enfants que tu as choisi qui empêche ta gamine de respirer, quoi. Donc c'est très compliqué. Ouais.
On se dit quoi à ce moment-là ?
Tu peux dire on se casse. Après, comme m'a dit docteur Guyon, on se casse pour aller où ? Parce que de la pollution, il y en a partout. Ou sinon, on fait comme avec les filles du Colère Pure. On résiste, on se bat et on se dit qu'il faut mettre en place des choses et qu'il faut changer. Parce qu'il y a ma fille, mais il y a des enfants qui naissent tous les jours au pays du Mont-Blanc et qui ont droit de respirer.
Et c'est bien vu ça ou pas ? Qu'un collectif de femmes se mobilise comme ça, se batte ?
Alors au début, oh là là, mon Dieu, non. Mon Dieu, c'est quoi ces hystériques là ? Encore des hystériques ou alors qu'on faisait des réunions Tupperware hein.
Ah oui, carrément. Adoré.
Ah oui, oui. Les réunions Tupperware où en fait nous on était en train de faire de la sensibilisation ou alors de parler médecine. Non, c'était des réunions Tupperware quand même. Donc oui, au début c'était un peu compliqué, puis maintenant ça y est, c'est rentré dans les mœurs.
Mallory Guyon, vous nous l'avez dit, une des causes de cette pollution, c'est le trafic des voitures. On rappelle que sur l'autoroute A40 qui passe tout près d'ici, ce sont près de 31 000 personnes qui passent tous les jours, dont 5 000 uniquement pour le tunnel du Mont-Blanc. Ça, c'est un vrai problème.
Oui, c'est un vrai problème. Et je rajouterai même, il n'y a pas que les véhicules particuliers, nous avons nos camions. 2000 voire à 2500 par jour.
On en a croisé pas mal en venant, effectivement.
Voilà, le trafic international, c'est un drame. Donc là, c'est toute la pollution liée au diesel, donc aux particules fines bourrées de diesel. Je rappelle que le diesel, c'est un cancérigène avéré par le Centre international de recherche du cancer. Et il faut réguler le trafic et il faut surtout que là, on mette les camions sur les rails et puis qu'on développe les transports en commun. pour la population locale, hein, voilà, et qu'on fasse la gratuité des transports, qu'on développe les trains, les navettes, les vélos électriques, le covoiturage, la location de voitures, de vélos et de voitures électriques. Enfin, il y a tellement de choses à faire, mais c'est un véritable problème, le trafic, oui.
Et autre problème, c'est cet incinérateur de déchets et les usines aussi qui sont voisines de votre commune.
Ah, complètement. Après, dans mon cas personnel, c'est la crèche est située au pied de ces usines. C'est une aberration sans nom, quoi. Et les enfants, on n'a pas le choix de mettre nos enfants à la crèche parce qu'on travaille. Mais moi, il y a des matins où j'ai amené ma fille à la crèche. Je suis sortie de la voiture. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je me suis mis à pleurer. J'ai remballé ma gamine. On est parti. Parce que l'odeur de l'émanation des cheminées, des usines et de l'incinérateur était tellement immonde que ça te pique les yeux. Tu dis, mais ça va pas, quoi. Et moi, j'ai presque 40 ans. Qu'est-ce que ça fait, un bébé d'un an? C'est pas possible. Après, depuis, grâce aux colères pures, il y a des filtres qui ont été installés, des choses comme ça qui atténuent, mais il y a encore plusieurs. Quand il fait beau comme ça, ça stagne. C'est, le soir, ça sent le produit chimique. C'est pas très agréable.
Et en même temps, c'est un enjeu économique fort où c'est compliqué pour justement les élus, les décideurs, de se dire faut qu'on freine un petit peu le trafic, qu'on réduise l'activité industrielle.
Alors oui, alors là moi j'entends très bien effectivement l'intérêt économique, mais il faut savoir que tout ce qui est lié à la pollution de l'air en France, c'est 100 milliards de dépenses de santé. 100 milliards.
C'est énorme.
C'est énorme. Donc on se dit, l'incinération... Si vous voulez, oui, je suis bien consciente qu'il y a des emplois, mais il faut savoir que quand on passe dans l'économie circulaire et dans le presque zéro déchet, ça crée encore plus d'emplois que l'incinération. Voilà, nous, on est avec le Colère Pure, ça fait quand même 3 ans qu'on bosse sur le sujet des déchets. On n'est pas là que pour dénoncer, on a les mains dans le cambouis, hein, on est sur le terrain, on a les expériences d'autres régions qui sont dans le zéro déchet. Donc si vous voulez, on n'est pas là à dire on ferme tout et puis vous vous débrouillez. Non, on est force de proposition. C'est quand même pas rien. Et au contraire, ça va créer des emplois. Au contraire.
Et quelles sont ces solutions alors que vous proposez ?
Alors comme je disais tout à l'heure, hein, pour le transport, hein, les camions sur les rails, hein, on a la capacité en France, le réseau il existe. C'est pour la population tout ce qui est transport en commun, covoiturage, développer les pistes cyclables. Donc ça c'est aussi des demandes, hein, qu'on a faites depuis 3 ans. L'incinération, donc, c'est toute la politique du zéro déchet, de l'économie circulaire. On répare, on revend, on évite tout ce qui est effectivement emballage en plastique. Donc c'est tout ce qui est en vrac. On essaye de réduire nos déchets. Il faut développer aussi cette politique sur les déchets organiques, compostés, etc. Mais pour ça, si derrière on n'a pas une vraie politique qui nous aide à développer des commerces en vrac, ça ne marchera pas. Si effectivement derrière on ne met pas la pression aux grandes industries du plastique, enfin vous voulez, eh ben ça ne marchera pas non plus, mais il y a des solutions.
Flavie Mélandez, votre ferme est située à 1000 mètres d'altitude, la ferme des Roches Fleuries. Vous la sentez cette pollution de là où vous êtes ?
Oui, alors aujourd'hui, il n'y a plus une question d'altitude, qu'on soit clair. Vous montez jusqu'au Bétais ou à Saint-Nicolas-de-Véros, qui sont donc les petits villages qui sont au sommet de Saint-Gervais, vous la ressentez, vous la voyez. Ça c'est important. Je rebondis justement sur les actions qu'on peut mettre en place, parce que on parle de trafic routier, etc. Ça c'est une réalité. Il y a aussi une chose, c'est que va falloir prendre conscience de consommer local, réduire nos déchets, agir contre la pollution, c'est ça aussi. Prenons conscience de consommer local, d'aller voir votre petit fermier d'à côté, votre maraîcher, etc. Ça c'est une action. Si on n'a pas le temps d'aller faire des manifestations, c'est pas grave, mais c'est déjà être acteur de tout ça.
Docteur Mallory Guyon, comment vous avez la certitude que cette pollution est liée à ce que vous avez évoqué, le trafic routier, l'industrie, l'incinérateur? Vous avez fait des études?
Alors déjà, il y a beaucoup d'articles médicaux, en fait, il faut le savoir. Moi, j'ai découvert ça, ça m'a angoissée de voir autant d'études nationales et internationales sur la pollution de l'air qui sont menées depuis plus d'une dizaine d'années. Et nous, en fait, quand on voit toute cette théorie scientifique dans les articles médicaux, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors oui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des études, on a mené des analyses dans la zone industrielle, et là, qu'est-ce qu'on découvre dans les poussières? Des taux aberrants de métaux lourds. Au niveau environnemental, ça a été le plomb, l'aluminium, le kalium, le zinc, enfin, quasiment tous les métaux lourds qui puissent exister. Et si vous voulez, après, on a fait encore trois autres analyses dans les œufs, dans le lait. Malheureusement, là, on a retrouvé des dioxines. On a refait des analyses l'hiver dans les poussières. On retrouve ces métaux lourds. Donc, à un moment donné, on s'est dit, on interpelle la préfecture et tous les autres organismes politiques. Et là, on nous a répondu, tout est sous contrôle. Alors, je vous avoue que moi, en tant que médecin, quand on me dit tout est sous contrôle et qu'on a des, si vous voulez, des seuils réglementaires européens qui sont plutôt en faveur de l'industrie et pas en faveur de la santé, comme le dit l'OMS, il faudrait des valeurs plutôt sanitaires, ben moi, je me suis dit, à un moment donné, il faut que je sache sur le corps humain ce que ça fait. Et on a fait notre campagne de prélèvement de cheveux sur essentiellement les enfants et malheureusement, on a retrouvé les métaux lourds.
Myriam Mélache, vous avez participé à ce test avec votre famille ?
Oui, oui, bien sûr. Alors, Mila Rose a fait les prélèvements de cheveux, a été une des premières à les faire. Et sur les résultats qui ont été donnés, c'est une des enfants qui, effectivement, avait le plus de contaminants dans ses cheveux. Quoi. Donc, ça brise le cœur. Hein.
Quelles seraient les conséquences de la présence de ces composants toxiques pour ces enfants ?
Donc sur les organismes des enfants, donc ça va interférer sur leur système endocrinien. Donc ça va perturber leur croissance, tout le système hormonal. Ça a des conséquences aussi au niveau pulmonaire, il faut le savoir. Et ça a des conséquences au niveau neurologique. Donc tout ce qui est maturation des neurones, donc ça entraîne tout ce qui est troubles de l'attention, autisme, troubles du comportement.
Malorie Guyon, est-ce que vous faites partie, toutes les deux, dans votre collectif, de cette communauté de collapsologues pour qui c'est bientôt la fin des ressources, c'est bientôt la fin du monde ?
Clairement, non. Si on agit sur les sources de pollution atmosphérique, c'est réversible. Donc, si vous voulez, l'enjeu, il est énorme quand on sait que c'est réversible en coupant, effectivement, les sources polluantes. Et moi, j'ai envie de dire, on y va, quoi. On y va pour nos enfants. Et j'y crois tellement que, regardez, moi, j'attends mon troisième enfant. Donc non, j'y crois à fond. Et on se donnera tous les moyens pour que, effectivement, on sauve la santé de nos enfants et qu'on sauve nos montagnes. L'enjeu, il vaut tellement le coup qu'on y va et on est prêt à sensibiliser la population, à la motiver, à leur proposer du concret. On est bien allé sur la Lune. On va pouvoir respirer de l'air pur, quand même.
France Inter. Rendez-vous, place du marché.
Il existe un mode de transport qui pollue beaucoup moins que les autres ici, c'est le tramway du Mont-Blanc. Mis en service en 1909, ce train à crémaillère emmène les visiteurs et les alpinistes dans les hauteurs du massif alpin avec son petit air de Poudlard Express. Il permet aussi de profiter pleinement du paysage. On a eu le privilège de monter à l'avant du train dans la cabine de Marie, la conductrice.
Alors on roule en moyenne à 15 km/h à la montée et à 12,5 à la descente.
Ah, ça va moins vite à la descente ?
Oui, parce qu'on a un système de survitesse qui nous empêche d'aller plus vite.
Pour des raisons de sécurité ?
Tout à fait.
Vous appelez Marie, le train c'est écrit Marie devant ? C'est parce que c'est votre train ?
Non, pas du tout. Elle s'était là bien avant moi. C'est le nom de la machine, il y a trois machines qui portent trois noms différents. Donc il y a Marie, Anne et Jeanne. C'était les filles du directeur à l'époque.
Ces trains existent depuis combien de temps ?
Alors ces machines, elles ont une soixantaine d'années.
C'est vraiment un train d'époque, quoi. Enfin, il y a des sièges là, on voit là derrière nous. Ils sont en bois. Il y a des vitres qui se baissent à la main. C'est vraiment d'époque, quoi.
Mais bon, ils vont bientôt les changer. Donc c'est les derniers moments pour nos vieilles dames.
Ah, vous les appelez les vieilles dames ?
Ouais. Bientôt à la retraite.
Pourquoi vous aimez ce métier-là ?
Parce que je le connais depuis toujours déjà. Mon grand-père et mon père étaient conducteurs avant moi et je pense qu'ils m'ont transmis la passion. Mais oui, c'est un plaisir. On a un cadre de travail exceptionnel qui change tous les jours parce que les montagnes sont différentes tous les jours, donc on peut pas se lasser.
Quel est le profil des voyageurs ? C'est que des touristes ou comment ça se passe ?
Non, il y a pas mal de professionnels de la montagne. L'été, on a tous les guides qui emmènent leurs clients faire le Mont Blanc. Il y a plein de monde différent, les touristes et les professionnels de la montagne.
Tiens, on croise des ânes, là, sur la droite, là.
Oui, il y en a pas mal tout le long de la ligne.
Vous êtes aux premières loges, là, face à la nature.
Oui, on en prend plein les yeux tous les jours. Et comme je disais tout à l'heure, la montagne change toujours, donc on s'habitue pas.
Pourquoi vous avez fait un petit coup de klaxon, là ?
Ah, parce qu'on traverse une route, donc on prévient les voitures qu'on arrive.
Il n'y a pas de barrière de passage à niveau ?
Non, pas pour l'instant.
Il n'y a jamais eu d'accident ?
Si, ça peut arriver, mais c'est très rare. Sur le nombre de trajets qu'on fait tous les jours, il n'y a jamais eu beaucoup d'accidents.
Avec quelques-uns quand même.
Ça va arriver une fois ou deux.
Ça s'est bien passé le trajet, madame ?
Ah mais c'est super, mais oui, mais c'est génial. Je viens de dire à ma sœur que j'ai passé une journée formidable, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel.
Vous venez d'où, madame ?
De Strasbourg. Super sympa.
Qu'est-ce qui vous a plu ?
Ben, déjà, c'est original, parce que déjà, c'est pas un train ordinaire. Et après, quand vous arrivez en haut, les paysages, c'est du rêve. Il faut y aller pour se vider l'esprit et retrouver la nature, tout simplement.
Et c'est vraiment un beau train, hein. Il est vraiment d'époque, là.
Ah, pour être d'époque, on ne peut pas mieux faire. Hein.
I'm sweet, I'm chasing my dreams. You're Aggie with me, cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my fees, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the sauce. I'm lost in the stew, I'm lost in the concept of fixing a brew. Identity crisis for me and my crew. We're black and we're British and African too, but so far removed. I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and a 100 grand and a pink. And we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I'm work a lot more money, a vacation home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Posted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Force, he's got some keys to afford. I'm so flawed, but that's calm. I can't sleep, I take calms. Herbal remedies like tea for me. Bougie, drinking wine and cheese. Catch me in the dance, drinking wine, say cheese. You got that foot in your mouth situation. I got that foot up my inspiration. World domination. But I
c'était Eni avec I Want.
Antoine Lee.
Vous êtes sur France Inter, vous avez toujours rendez-vous place du marché à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. On est toujours à la terrasse du café de la brasserie du Mont-Blanc avec Flavie Mélandaise, Malory Guyon et Mireille Méloche. On accueille deux nouvelles invitées. Rosemarie Farinella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes institutrice. Vous nous raconterez dans un instant le travail que vous faites pour sensibiliser vos élèves aux médias et aux fausses informations. À côté de vous, Julia Vira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes guide de haute montagne à votre compte. Vous êtes installé ici depuis 7 ans dans la vallée de Chamonix. Comment on devient guide de haute montagne, Julia ?
Alors, on doit suivre une formation à l'ENSA, qui est l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix. Donc, c'est la seule école en France et la formation est une formation qui se déroule sur presque 4 années. C'est des modules qui s'alternent avec du travail de tutorat, du travail avec des clients. Donc, on fait des périodes de formation à l'ENSA et puis après, on reprend un peu la vie plus professionnelle. Donc, ça pendant 4 ans. Et pour intégrer cette école-là, il y a un examen d'entrée qui est très difficile. On appelle ça l'examen probatoire. C'est un peu la bête noire parce qu'on passe, il n'y a qu'un seul examen par an et on passe quand même plusieurs essais généralement avant d'arriver à rentrer à l'école.
Mais c'est de la théorie ou c'est des tests, des concours physiques ?
Donc grosso modo, ce sont que des épreuves physiques, techniques. Voilà, il y a quelques épreuves un peu plus théoriques, mais c'est très anecdotique.
Vous avez été diplômé en 2017. C'était une promo historique parce que dans cette promo, où il y a à peu près 40 candidats, 6 étaient des femmes.
Voilà, donc on en parle encore parce que ça s'est jamais vu avant et ni après. Traditionnellement, il y avait une femme ou pas de femme ou deux femmes dans une promotion depuis la première Martine Roland en début des années 80. Et donc nous, on était une promotion où on a été 6 diplômés de l'examen final en 2017 et c'était assez exceptionnel.
Il faut savoir que le métier de guide de montagne, il y a seulement 1% de femmes, une trentaine pour 1800 hommes. Traditionnellement, c'est vraiment un milieu très masculin où il y a beaucoup de testostérone. Comment ça s'explique ça ?
Je pense que c'est l'habitude, c'est la tradition, c'est-à-dire que le métier a été créé par les hommes puisque c'était eux qui allaient en montagne. Donc le guide était un homme, c'était une habitude et il a fallu vraiment du temps pour que les femmes arrivent à se projeter là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'identification. Donc les femmes qui sont venues dans ce milieu étaient toujours un peu dissidentes, un peu à vouloir pousser des portes. C'était pas normal. Voilà, mais on travaille là-dessus et puis c'est en train de changer doucement.
Mais est-ce que, objectivement, ça peut être pour des raisons juste physiques ?
Alors si, bien sûr, c'est un métier qui est très physique, c'est un milieu qui est très exigeant. Par contre, il y a une grosse partie du travail qui repose sur l'anticipation, la connaissance des manœuvres, la gestion de l'environnement, la perception du client et de ce qu'il est en train de vivre et l'anticipation de tous les dangers qui peuvent arriver. Et ça, là-dessus, il n'y a absolument aucune différence entre un homme et une femme, même si sur certains gestes purement techniques, comme souvent ce qu'on me demande, sortir quelqu'un qui est tombé dans une crevasse, effectivement, des prédispositions physiques peuvent aider. Mais par exemple, entre un homme avec un petit gabarit et une femme avec un plus gros gabarit, il n'y a pas forcément une grosse différence. Donc ça n'explique pas tout.
En début d'émission, avec Flavie Mélandez, on a évoqué Marie Paradis, qui est la première femme à avoir gravi le Mont Blanc en 1808. C'est pas un modèle, ça, pour les petites filles qui rêvent de devenir guide, mais qui se disent « bah non, c'est pas pour nous, les filles ». Elle ne peut pas incarner ce rôle-là.
J'ai l'impression que ce ne sont pas des sources d'inspiration parce que c'est il y a très longtemps, donc on parle vraiment des débuts de l'alpinisme dans le massif du Mont Blanc. Par contre, les sources d'inspiration sont plus modernes, c'est-à-dire que maintenant, les femmes qui pratiquent l'alpinisme font plus parler d'elles et les jeunes filles arrivent plus à s'identifier à voilà, peut-être des images de femmes qui sont normales en tant que femmes et pourtant qui arrivent à faire de la haute montagne à bon niveau.
Julia Vira, vous, à quel moment vous êtes dit « Tiens, j'ai envie de devenir guide de haute montagne ». Et est-ce que vous avez hésité, justement, par rapport à ce contexte très masculin ?
Oui, alors je dirais qu'entre le moment où je me le suis dit à moi, secrètement dans ma tête, et le moment où je l'ai dit au reste du monde, il s'est passé quelques années, et il y a eu encore quelques années après ça, avant que j'ose aller passer l'examen.
Vous aviez peur de quoi ?
J'avais peur de ne pas y arriver, tout simplement, de ne pas être au niveau. Peut-être parce que, justement, mes modèles d'identification étaient des femmes que je trouvais extrêmement fortes et brillantes, et que du coup, je ne pensais pas pouvoir arriver à ce niveau-là. Et donc, ça a mis vraiment des années avant que j'ose me dire que je pourrais faire ce métier-là, et notamment le fait de rencontrer ces femmes, de leur trouver un côté très humain, très classique, avec des problématiques qui pouvaient être les mêmes que les miennes, et ben ça a un peu démystifié cette image de la femme guide. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait ce travail de moi me préparer, essayer d'avoir le niveau pour l'examen d'entrée et puis affronter un peu mes peurs qui sont des peurs très classiques de pas être à la hauteur, quoi.
Comment vous et vos amis guides de haute montagne femmes, comment vous êtes perçus par vos confrères, vos collègues hommes ? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont accepté ou vous sentez encore de la réticence, voire de l'hostilité ?
Alors l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, c'est jamais neutre comme sujet, mais par contre, c'est aussi positif que négatif. C'est-à-dire qu'on a un regard qui peut être très très bienveillant parce qu'on se rend compte que la présence de femmes dans le métier, ça change la donne, ça change la gestion du risque, le rapport à la clientèle, etc. Donc il y a quand même une conscience collective de se dire que les femmes dans le milieu apportent vraiment de belles choses et qu'on peut s'en inspirer. Et puis il reste encore aussi de la réticence, une curiosité qui est pas forcément très positive. Positif pour l'instant.
Mais la méfiance de la part de vos clients aussi ?
Alors ça, c'est très rare. Ça m'est arrivé dans ma carrière deux fois. J'ai eu deux clients différents, un homme et une femme, à deux périodes différentes, qui ont refusé d'aller en montagne avec moi, tout simplement.
Parce qu'ils ne le savaient pas au départ, c'est pas évident. Que ça va être Julia Vira qui va les accompagner en haute montagne.
Voilà, parce qu'ils se trouvent dans une situation où ils embauchent un guide par une structure ou quelque chose comme ça. Et quand ils découvrent que le guide, c'est une femme, et ben deux fois, j'ai eu un refus catégorique.
Et ils vous ont dit quoi? Comment on dit ça?
ils se sont passés de raison. Ils ont juste dit non, hors de question. Voilà, c'était très clair. Et à la fois, c'est plus simple pour moi parce que je me dis, il y a un tel chemin à faire pour convaincre des gens comme ça que je n'essaye même pas. Non, au contraire, je pense que les gens sont très heureux d'avoir une femme guide et la plupart de mes clients ne changeraient pour rien au monde.
Et là, Julia Viera, vous vous apprêtez à quitter la haute montagne pour l'océan, pour une nouvelle aventure. Vous partez à l'automne prochain pour la Transat Jacques Vabre, en binôme avec la skippeuse Morgane Urso-Poupon, la fille de Philippe Poupon. Pourquoi vous quittez la montagne pour la mer ? Vous êtes lassé de la montagne ?
Alors j'ai envie de dire, puisque les glaciers fondent, je les suis. Non, je déconne.
À peine.
Non, ça c'était pour le clin d'œil, mais en fait, la mer et la montagne sont deux environnements vraiment très proches. Donc moi, j'ai autant de plaisir dans l'un que dans l'autre à me trouver dans des environnements très beaux et puis à la fois très hostiles qui demandent vraiment beaucoup d'expertise. Et puis, c'est un nouveau challenge, c'est-à-dire que j'aime aussi porter le message que même quand les choses semblent difficiles, en fait, on peut croire en soi et aller au bout de ses rêves. Et donc, voilà, c'est ce que j'essaye d'incarner avec mon changement de vie du moment.
En tout cas, on vous souhaite bon vent pour la suite de vos aventures. Autre aventure moins mouvementée, mais tout aussi passionnante, c'est celle que vous menez, Rosemarie Farinella. Vous êtes institutrice à l'école primaire de Taninges, en Haute-Savoie, un peu plus bas dans la vallée. Depuis 7 ans, vous sensibilisez, pour ne pas dire éduquez, vos élèves de CM2 aux médias et surtout aux fausses informations, les fake news, hein, on appelle ça comme ça. Comment vous est venue l'idée de sensibiliser vos élèves de CM2 ?
En 2014, déjà, je recevais moi-même plusieurs fausses informations dans ma boîte mail, sur mon mur Facebook. Et je me suis dit, mais comment vont faire les jeunes générations pour démêler le vrai du faux ?
Mais qui vous envoyait ces mails erronés avec de fausses informations ?
Bah, mes amis. Des amis, des grandes personnes. Alors je me suis dit, a fortiori, comment vont faire les petits ? Et j'ai regardé d'abord s'il y avait des choses qui existaient pour les tout jeunes, et il n'y avait rien. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, puisque auparavant j'étais journaliste et que ce sujet m'intéresse. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de construire un scénario pédagogique qui s'appelle « Info Intox, comment faire la différence sur Internet et les réseaux sociaux ?» et ce, dès l'école primaire.
Mais Rosemarie Farinella, les enfants avec qui vous travaillez n'ont que 10 ans. Et quel est leur rapport aux écrans, aux réseaux sociaux, aux informations ? Ils sont trop jeunes pour ça, ils sont trop petits.
Non, d'abord, ils sont pas du tout trop jeunes parce que la plupart, je vais pas dire tous, pas 100%, enfin ça dépend des années. L'année dernière, c'était par exemple 100% des élèves surfaient sur Internet et donc ils sont familiers, je veux dire le monde des écrans, les photos, l'image, c'est leur univers, c'est leur langage. Donc en fait, ils m'apprennent aussi des techniques, ils m'apprennent plein de choses.
Mais vous leur apprenez à prendre du recul par rapport à ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils voient. Et la première chose à faire, avant même de parler de fausses informations, c'est de comprendre ce qu'est une information.
Oui, bien sûr. En fait, ce que j'essaye de leur apporter, c'est plus des questions et une méthodologie. Après, pour qu'ils puissent aborder n'importe quelle information et puis qu'ils se posent des questions, pour qu'ils ne se fassent pas manipuler. Par exemple, j'essaye de leur apprendre une démarche. La démarche, c'est en 5 points, c'est observer le contenu d'une information. Est-ce que ça vous semble plausible ? Ensuite, ils se posent la question, est-ce que les informations reposent sur des preuves solides ? Aussi, ce qu'on regarde, c'est est-ce que ce sont des experts qui sont interviewés ? Et puis aussi la notion de conflit d'intérêt. Ça, c'est hyper important parce que si c'est des gens qui ont intérêt financièrement ou tout autre intérêt à pousser une idée, eh bien, c'est pas valable.
Flavie Milandaise, vous avez une petite fille, vous êtes la maman d'une petite Léonie qui a 8 ans. Ça vous parle, ce que dit Rosemarie ?
Complètement. Quand je vois à l'allure à laquelle les enfants sont capables d'aborder les écrans et de les utiliser, c'est quand même assez inquiétant. Alors, moi, je rebondis juste là-dessus en disant que c'est d'abord notre rôle de parents d'éduquer les enfants. Il y a beaucoup maintenant d'associations, même de professionnels qui alertent sur l'accès aux écrans. Parce que finalement, c'est nous les parents qui permettons ça. C'est tellement plus simple de leur donner un écran. Moi, pour ma part, c'est vrai qu'on a peut-être une vie un peu différente. Donc le papa de Léonie ou moi-même, on est tous les deux dans des alpages différents. Par exemple, l'été, on n'a pas de télé, il n'y a pas Internet. Et je pense que ma fille, elle n'est pas plus bête qu'une autre. Au contraire, ils vont développer d'autres sens.
Mais en tout cas, Marie-Rose Farinella, votre travail fait des émules parce qu'on vous a demandé d'enseigner vos méthode à d'autres instituteurs, institutrices.
Oui, j'ai donné des cours à d'autres enseignants, mais pas que, à des bibliothécaires, à des journalistes, en France et à l'étranger aussi. En Jordanie, j'ai formé des...
Même là-bas ?
Oui, des professeurs et des journalistes. Donc oui, bien sûr, parce que c'est transmissible à tout le monde, parce que ça peut être fait par tout le monde. Madame disait, oui, c'est le problème des parents. Ce n'est pas le problème que des parents, c'est le problème de tout le monde, de tous les adultes, de tous les enfants. C'est important qu'à l'école, pour les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider, c'est important qu'ils aient un lieu de parole où ils peuvent s'exprimer sur toutes leurs trouvailles.
En tout cas, Rosemary Fainella, merci beaucoup pour votre travail parce qu'il est précieux. Restez avec nous car c'est bientôt l'heure de l'apéro et Flavie Mélandaise, vous allez nous faire découvrir dans quelques instants les fromages que vous préparez vous-même et vous avez déjà commencé à déguster. C'était Jacques Dutronc avec On nous cache tout, on nous dit rien, un titre qui date de 1966.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Antoine.
On est à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. Toutes nos invitées sont restées, j'insiste sur le toutes, car aujourd'hui on ne reçoit que des femmes et c'est très bien comme ça. Vous avez même le renfort de Lucille Marchal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicienne et vous allez nous interpréter l'une de vos chansons dans quelques minutes. Mais là, tout de suite, c'est l'heure de l'apéro. On retrouve Flavie Mélandaise. Vous nous avez apporté plein de fromages que vous avez vous-même préparés dans votre ferme des Roches-Fleuries. Qu'est-ce qu'on a là ?
Alors, effectivement, tous ces produits proviennent de la ferme des Roches-Fleuries. Alors, juste, je fais une petite aparté. Je ne suis pas seule à faire ces produits, puisque au sein de notre ferme, on est trois associés que je salue. Donc, mon compagnon Pierre et Jean-Pierre. Donc mes associés, et on a deux salariés, Marie-Laure et Amandine, qui nous épaulent, notamment Amandine en fabrication. Donc vous avez deux plateaux distincts, un plateau de fromage de chèvre, donc c'est de notre entière production, puisque en Haute-Savoie, on n'a pas de collecte de lait de chèvre. Donc si vous avez des chèvres, il faut transformer du fromage. Voilà. Donc tomates de chèvre, raclette de chèvre, crottin et petit crottin au bleuet.
Vous nous avez gâtés là, ouais. Servez-vous toutes hein.
C'est le moment, c'est l'apéritif. Et puis vous avez une autre ardoise où dessus vous retrouvez nos produits en vache, puisqu'on a aussi un troupeau de vaches, avec tomes de vache, raclette et puis des petits rochers aromatisés à ail et fines herbes.
Rosemary, est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que vous avez goûté ?
Ah oui, moi j'ai goûté le petit crottin de chèvre sec, j'ai adoré.
Julia ?
Je me régale.
C'est quoi votre préférence ?
J'ai pas encore fini de tous les goûter, mais j'y travaille.
Allez-y. Malory Guyon, qu'est-ce que vous avez aimé, vous ?
Ben, en fait, je les aime tous, mais je les déguste avec les yeux, malheureusement.
À cause de la grossesse, à cause de bébé ?
Non, je les admire avec les yeux, je les déguste avec les yeux, ils m'ont l'air trop bons.
On attendra la naissance de bébé pour vous reproposer les fromages de Flavie. Flavie Mélandez, vous êtes en quelque sorte une Wonder Woman. Vous êtes donc agricultrice, fromagère, et vous êtes aussi infirmière à l'hôpital de Sallanches et maman d'une petite fille, d'une petite Léonie qui a 8 ans. C'est quoi votre secret pour tout mener de front comme ça ?
Le secret, c'est effectivement anticiper, s'organiser le mieux possible. Lorsque j'ai ma casquette d'infirmière, donc c'est uniquement la saison d'hiver aux urgences des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Donc sur l'exploitation agricole, je suis déléguée de tout ce qui est papier administratif, mais par contre, je ne fais plus du tout les traites, donc ça me permet de mieux m'organiser. On fait également quelques nuits, donc la nuit, je suis aux urgences, et la journée, je suis à la ferme. Voilà. Donc,
vous dormez quand ?
On se rattrape quand on n'en peut plus, voilà. Mais sinon, non, j'essaye quand même de prendre un petit peu de temps avec ma fille, en tout cas de suivre, parce qu'après, les devoirs, etc., il faut pouvoir suivre, justement, et ne pas faillir à son rôle de maman.
Mais pourquoi vous ne faites pas un choix entre votre vie d'infirmière et votre vie d'agricultrice ?
C'est impossible. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, donc j'ai fait cette reconversion professionnelle où j'avais vraiment envie de m'épanouir en tant qu'agricultrice.
Vous étiez au départ infirmière.
Donc j'étais au départ infirmière. J'avais déjà ce goût pour l'agriculture. J'ai trouvé cette ferme auprès de Pierre et Jean-Pierre pour m'associer. Et puis au bout de 2 ou 3 années... il est vrai que mon métier d'infirmière me manquait. Mon contact avec les patients, j'adore, et puis mes collègues des urgences. C'est un peu une équipe à part, en fait. C'est plutôt une famille, les urgences Sallanches-Chamonix, c'est une équipe à part entière. Et puis, c'est vrai que Fred Champly, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, qui était le chef de service à l'époque, m'a dit « Oh, tu voudrais pas revenir une saison, ma cadre aussi, parce qu'on manque un peu de personnel. » Bon, ça, c'est pas un scoop, hein, de toute manière. J'ai dit « Ok, je rempile pour la saison avec l'accord de mes associés. » Et en fait, du coup, je trouve cet équilibre-là. C'est pas un choix. Après, honnêtement, je ferai pas infirmière toute l'année, parce que le navire qu'est l'hôpital public coule, tout le monde le sait, on le voit encore plus quand on est au cœur de ça. Il y a une faille au niveau agricole en France et il y a une faille au niveau hospitalier. J'ai l'impression que les deux sont un peu les mêmes.
Ouais, c'est ça, parce que vous êtes infirmière et agricultrice, deux métiers indispensables. Vous soignez d'un côté et vous nourrissez de l'autre, mais ce sont deux secteurs en tension, deux secteurs en crise.
On ne peut plus faire les autruches, que ce soit sur le plan hospitalier, sur le plan agricole. Aujourd'hui, on a besoin de l'agriculture pour nourrir les gens. On n'est pas des paysagistes, les agriculteurs. On est là, notre première fonction, elle est nourricière. On est là pour vous proposer des produits de qualité. Si on ne donne pas les clés aux agriculteurs pour pouvoir produire de manière correcte, ça ne marchera pas. Et au niveau sanitaire, au niveau santé, c'est la même chose. On ne peut pas nous demander de soigner correctement si derrière, on ne donne pas les moyens. Je veux dire, c'est la même chose. De l'argent, il y en a. Les collectivités, elles en ont de l'argent. Quand on voit au niveau agricole, écologique, qu'on est capable de mettre des millions chaque année dans ce qu'on appelle la prédation, dans ce qu'on appelle la protection du loup qui est imposée par l'Europe, hein, qu'on soit clair, ces millions-là, ils sont mis là-dedans. D'accord ? Aujourd'hui, on est régi par l'Europe au niveau agricole. On a fait ce choix-là, mais qui n'est pas forcément bénéfique. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire, sur mon exploitation, j'ai pas honte de dire que je touche des aides de la PAC. Bien sûr, si je les ai pas, je paye pas ma salariée, qu'on soit clair. Mais aujourd'hui, je suis sous perfusion de la PAC. Je suis sous perfusion des normes européennes qui sont aberrantes. Et en fait, tout ça est à revoir. De l'argent, il y en a. Mais il faut maintenant qu'il soit utilisé à bon escient. Et il y a un moment, il faut que nos politiques, ils nous écoutent. Que ce soit pour la pollution, pour l'agriculture ou pour le secteur de la santé.
En tout cas, lorsqu'on entend des femmes comme vous avec une telle passion et de telles convictions et les autres invités qui sont intervenus tout au long de l'émission, on peut rester optimiste. Comme promis, un peu de musique avec vous, Lucile Marchal. Vous êtes auteure, compositrice, interprète. Votre genre musical, c'est le folk, teinté de blues et de rock. Vous êtes originaire de Chamonix et c'est là que vous avez rencontré notre ami André Manoukian au Cosmo Jazz, le festival qu'il a créé. C'est bien ça ?
Je ne sais plus en quelle année c'était, mais oui, je jouais dans son festival. Dans la rue d'ailleurs, dans un bar, dans le Off Festival, et il m'a gentiment invité à clôturer le Cosmo Jazz avec lui, voilà.
C'est quoi le Cosmo Jazz ? Rappelez-nous, qu'a lancé André Manoukian ?
C'est un super concept en fait qui allie la musique jazz et la nature, donc les amoureux de la montagne. En fait, je pense que quand même c'est important de le souligner, tous les concerts sont gratuits et ils essayent d'avoir lieu dans des super endroits, des super spots de haute montagne, mais qui sont quand même accessibles en randonnée pour des gens qui ne marchent pas toute l'année. Enfin, en tout cas, ça faisait longtemps que j'attendais de voir un bel événement culturel à Chamonix, quoi. Ça faisait plaisir.
Alors Lucile Marchal, vous avez accepté de nous interpréter l'une de vos chansons. Quel est son titre ? Ça parle de quoi ?
Alors, c'est assez inhabituel pour moi, mais j'ai choisi une chanson en français, parce que normalement, je fais beaucoup de ballades folk, tout ça, c'est pas du tout le même univers, mais je me suis dit que ça collait bien, cette fois-ci, pour cette émission, et elle s'appelle « Loin du compte ». C'est pas très gay, elle parle d'un sentiment d'impuissance face à l'actualité.
Voilà. Mais encore une fois, on a vu avec vous toutes que, bah voilà, on peut aussi ne pas se laisser faire et combattre. On vous écoute, Lucille.
Tu m'as dit reste calme, même s'il n'est pas idéal le monde. Je me ferais bien porter pâle, vu tout ce qu'on nous déballe sur les ondes. Entre les pétitions sur internet et les infos minutes, je sais plus vraiment où je dois donner de la tête et je me sens vraiment pute. Tu m'as dit lâche du lest, c'est les petits gestes qui comptent. Alors là vraiment c'est chouette, des idées plein la tête remontent. Au fond peut-être bien que la clé c'est trier du plastique, ou simplement aller bruncher en trottinette électrique. On n'est plus vraiment loin du compte. Allons-y, c'est tout droit, la honte. Il paraît qu'il faut voter, ne serait-ce que pour éviter le pire. Ça ne laisse pas présager qu'il soit si radieux, l'avenir. Je pourrais toujours publier ça ce soir, ça fera polémique. En plus, mon compte Insta est dérisoire, disent les statistiques. Entre les patatis, les patatas, c'est une cacophonie. Et les lois, ici-bas, se passent sans bruit. On n'est plus vraiment loin du compte. Et allons-y, c'est tout droit.
Bravo, c'était très beau, Lucille Marchal. Vous êtes une musicienne professionnelle depuis 10 ans, mais vous avez toujours baigné dans la musique.
Mon père était mélomane, il m'a toujours fait écouter des choses depuis mon plus jeune âge, mais ma mère, elle est kiné. Elle n'était pas très, très motivée pour que je fasse de la musique à la base, mais voilà.
À quel moment vous êtes dit « je vais me lancer dans la musique » ?
Franchement, ça s'est fait un petit peu malgré moi, parce que je pense que je ne savais pas faire grand-chose d'autre. Voilà. J'ai commencé à jouer dans les bars à 16 ans. On me dit « ah bah tu voudrais pas jouer, je vois que tu joues de la guitare, j'ai personne ce soir », j'ai commencé à faire ça. Et après le bac, je suis partie.
Vous êtes partie où ?
Je suis allée à Londres d'abord, et après je suis allée à Paris pendant 5 ans.
Et après vous avez décidé de revenir aux sources, de vivre dans les montagnes, pour quelle raison vous êtes revenue ici ?
Ah bah le fromage, hein, parce que franchement c'est quand même...
Ça c'est un petit hommage à Flavie Mélandez, parce que là c'est vrai, faut le redire, on se régale.
Non mais en réalité, je sais pas si j'arriverai à quitter ces montagnes pour de bon un jour, ça me va très bien pour le moment, tant que je peux bouger un petit peu quand je dois travailler, voilà.
Lucille Marchal, vous avez fait le choix de sortir votre premier album Vertical Ground en décembre 2020, en pleine crise du Covid, pour quelle raison ?
Parce qu'il faut un petit peu d'optimisme, je me suis dit que voilà, fallait le faire. De toute façon, c'était un album autoproduit, du coup j'avais le choix. Et je me suis dit, ben, soit j'attends encore des années, soit je le fais maintenant. Et je voulais clore cette année sur une touche positive et passer à autre chose après, voilà, c'est pour ça.
Merci beaucoup Lucille Marchal, merci à toutes, merci à Philippe le patron de la brasserie du Mont Blanc pour son accueil, merci à Toine Kouane pour son aide. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, elle a été préparée par Marion Philippe, assistée de Julien Martin. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouvez Aurélie Sfèze à Bastia en Haute-Corse.